Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Là, je crois que je suis prête. Hein.
Oui, bah, je vois, on reçoit encore un Belge qui a le vent en poupe.
Est-ce que c'est un wallon, hein? Parce que, oui, personnellement, j'ai une petite préférence pour la rigueur flamande.
Alors déjà, on dit wallon, et puis il est ni l'un ni l'autre, il est bruxellois, mais il porte un nom flamand, c'est vrai, que, comme moi, quoi. Van Laken.
Van, mais ça veut dire deux, ça, non? Bah, Van Laken, c'est un aristocrate.
Un aristocrate du rap. Là, je suis hyper prête, là. Non,
attendez, Laken, les enfants, c'est le château des rois de Belgique.
Ouais, mais avec lui, on est plus sur le crew de Belgique.
Attends, on peut être dans le creux et avoir l'esthétique flamande.
Moi, je dirais que esthétique flemmarde plutôt, non?
Oui. Alors, Roméo Elvis, c'est son blaze.
Un blason. Magnifique, avec quoi? Un lion ou une tour?
Non, lui, c'est un crocodile. Hein.
Un crocodile, comme sur le blason de Nîmes. Oh. Mais cet homme est une promesse médiévale, presque baroque, en fait.
Non, pas baroque, c'est pas du rock, c'est du rap.
Ouais, enfin, ce qu'il veut dire, c'est que c'est une autre, c'est un autre style, c'est pas la même limonade.
Oui, et puis c'est Chocolat, c'est le titre de son album. Je suis prête, là.
Ouais, il est connu pour être le frère de... Et aussi le fils de...
Mais c'est ce que je disais, c'est un héritier. Oh, vous me gâtez aujourd'hui.
En tout cas, moi, j'ai écouté tout Roméo Elvis ce week-end et je suis...
T'es prête. Ouais, ça va, on a compris. Dis donc, depuis la disparition de Manoukian, tu t'impliques en musique, hein?
Bah, je dirais même que je commence à toucher ma bille en hip-hop.
Hop. Mais que c'est virevoltant.
Bon, alors, donc je pense, peut-être je peux faire un petit feat avec Roméo.
Oh, mais quelle prose, c'est sublime ce que tu dis. Ouais. Charline fit un petit feat avec Roméo.
Mais t'es sûr qu'il est accordé en mi bémol, là, ton
Roméo? Ouais, bien sûr. Écoute, on fera un duo d'enfer. Hein. La voix de Brest de Roméo, le doux filet de ma voix.
Oh, un duel Van Unecker, Van Laken, la majesté flamande.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Émission, un programme qui crée de la dette et un peu d'audience aussi. Ce matin, les premiers appelés du Service National Universel ont enfilé leur bel uniforme bleu marine pour assurer la cohésion de la jeunesse et sa mixité. Rien de tel que la bonne vieille méthode militaire.
Attention, l'uniforme ne vous rend pas invulnérable.
Un sondage de l'Office français des drogues et des toxicomanies vient de tomber. 54% des Français sont opposés à la légalisation du cannabis. Ils étaient 77% en 2013. Ça porte un nom, ça s'appelle avancer.
Avant, je marchais à l'héro, c'était chouette. Là, je suis à la méthadone, c'est extra.
Le sexe aussi peut être éco-responsable. On s'inquiète d'écologie et de santé pour l'alimentation et les cosmétiques, mais pas encore pour le sexe et le parabène dans les préservatifs et le vibromasseur à énergie solaire et la nature.
Moi, je veux bien m'engager à aller faire une petite partie de jambes en l'air dans la forêt au nom de l'environnement, bien entendu.
Vous voulez ajouter quelque chose, Juliette?
Elle a été choquée.
Ouais,
mais tu peux pas laisser ton vibromasseur dans ton jardin.
Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure. C'est dire comme c'est attendu.
Il y a des vraies questions.
La nuit, elle rêve de Châteaufort et de Godefroy de Bouillon. Résultat, elle travaille à la maison de la radio et elle bosse avec Guillaume Meurice. C'est Clara Dupont-Mono.
Oui, Charline. Autour de cette table, une équipe aussi belle qu'une chanson. Si elle en était une, elle serait un air groovy échappé d'une chorale gitane menée par un flûtiste reggae qui assumerait néanmoins son héritage country. Qu'est-ce que vous nous chanterez aujourd'hui, Mélanie Bauer?
Bonjour, alors comme d'habitude, je vais vous parler de mes névroses, mais aussi de l'artiste présent.
Vous avez que 3 minutes, hein, Mélanie, pas...
S'il était une chanson, il serait l'hymne des procureurs, entonné avec rage, le doigt pointé vers les coupables que le refrain condamnerait à mort. Qui avez-vous fait chanter aujourd'hui, Guillaume Meurice?
Des riches, évidemment. Bonjour à tous. Je me suis intéressé aux dons des milliardaires pour Notre-Dame. Ça crée la polémique qui agace les Français. Je suis allé les voir.
Il faut causer, il faut raconter des conneries, comme je suis en train de le faire.
Je crois qu'elle a bien compris le principe de ma chronique.
Elle serait une ritournelle médiévale, fredonnée sur une vielle à roues, qui parlerait de femmes libres, de banquets arrosés et de jarretières détachées à la hâte. Sur qui allez-vous chanter aujourd'hui, Juliette Arnaud?
Sur un livre dont vous me disiez juste avant l'antenne qu'il était très joli.
Oui.
Et ben il est joli aussi dedans. Jeunesse de France, accroche-toi à ton poste, car voici celui qui vient ambiancer l'open space. Respire à fond, il va nous dire qui il est. Vous êtes.
Bonjour, je suis Roméo Elvis.
Yes. Allez, descente d'organes en direct.
Bonjour Roméo Elvis, moi il a l'habitude. Maintenant il est rodé, Roméo Elvis.
Il est blasé.
Bienvenue.
La honte.
On va parler de votre nouvel album qui s'intitule Chocolat et puis d'une tournée qui commence demain au Zénith de Paris. Zénith qui est complet, mais samedi vous serez à Bruxelles, mais rassurez-vous, française, français, Roméo Elvis tourne à Amiens, à Rennes, à Lille. On donnera plein de dates pendant l'émission pour que vous ne loupiez pas la place et que ce soit... Il y a déjà des dates complètes, je suis certaine.
Oui, celle de demain est complète et Forêt Nationale a très peu de places près.
Bon, écoutez, alors déjà, on va parler, on vous a pendant une heure, on va en profiter. Ma première impression à l'écoute de votre album, Roméo Elvis, c'est j'ai l'impression que vous vous foutez à poil. Je vous ai vu nu. Vos états d'âme, votre milieu, vos relations aux autres. Mais ça veut dire, vous parlez beaucoup de vous, il y a beaucoup de sincérité. Alors justement, le rap, comme c'est la nouvelle variété, la musique qu'on entend partout et qui fait beaucoup de fric, est-ce qu'il faut d'autant être plus sincère aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça dont a besoin le rap aussi aujourd'hui?
Je sais pas ce dont a besoin le rap, je serais mal placé pour le dire, mais je sais qu'en tout cas, ça a quand même étonné pas mal de mes amis rappeurs ou journalistes dans le rap d'avoir autant d'être aussi impudique dans l'album. Donc je sais pas si c'est spécialement quelque chose qui se fait pour l'instant beaucoup.
Ouais. On vous a dit aussi qu'il était un peu plus pop. Alors moi j'ai pas l'oreille assez fine, peut-être Mélanie, mais on se disait avec Mélanie, est-ce qu'il est plus pop ou juste il est simplement plus travaillé?
En fait, il est sûrement plus pop, mais il est plus ce que j'aime qu'il soit parce que c'est le premier album solo. Mm-hmm. Avant, je travaillais avec le Motel sur Moral. Et donc, on avait un style commun, quoi.
Très électro.
Ouais, c'est ça. Mais moi, j'écoutais beaucoup de pop, j'écoutais beaucoup de rock.
Et avant, c'était le jazz, un peu. Il y a pas mal de prod en jazz.
Ouais. Avec le Motel aussi, beaucoup, hein, le jazz, ouais. Et du coup, cet album-là, il est pop, mais il est rock, il est un peu jazz. Et en fait, il est tous les styles que j'ai écoutés, quoi. Et que je me suis permis de mettre dedans.
Et qui a une couleur donc différente des autres. Alors, précédemment, vous avez collaboré avec beaucoup de jeunes rappeurs. Et ici, vous collaborez avec M et Damon Albarn. Est-ce que vous voulez entrer dans un rap plus adulte? Parce qu'ils sont plus âgés.
Ouais, clairement, ils sont plus âgés. Je sais pas. Je sais juste que je me suis fait un kiff en fait là-dessus. Je me suis fait j'ai réalisé des rêves quoi d'adolescent que de faire de la musique avec Mathieu Chédid et avec Damon Albarn. Ouais. Donc c'était plus cette optique-là de se faire plaisir sur l'album vu que j'avais page blanche un peu, je pouvais faire ce que je voulais. Quand Barclay m'a dit, je suis chez Barclay donc en label, et quand ils m'ont dit tu sais on a un téléphone magique, il appelle tout le monde, tu peux avoir, tu vois, on peut essayer de contacter qui tu veux.
Ils ont le 06 quoi.
Voilà, c'est ça, nous on a le 06 de Mathieu Chédid et de peut-être de Damon Albarn. Ils se sont rendu compte que j'étais très fan et que j'en parlais tout le temps en interview. Et du coup, je me suis fait plaisir en fait.
Ah ouais, mais une fois qu'ils disent oui, est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à réfléchir à ce que vous pouvez faire avec eux? Et là, c'est un peu stressant. Ou vous aviez déjà l'idée?
Non, j'avais aucune idée, parce que déjà, j'aurais jamais osé moi-même prétendre les avoir sur l'album.
Donc, une fois qu'ils vous disent oui, il faut réfléchir à qu'est-ce que je fais avec Mathieu Chédid, qu'est-ce que je fais avec Damon Albarn. Alors, par exemple, quand vous dites qu'est-ce que je fais avec Mathieu Chédid?
En fait, avec Mathieu Chédid.
À part une belote, je veux dire.
Ça a été assez simple parce que on avait déjà un morceau. Et on s'est dit, sur celui-là, il va vraiment être. Ça va vraiment bien marcher. Pour Damon Albarn, c'était plus compliqué parce que. On a dû lui proposer quelque chose et on a dû créer quelque chose de toute pièce avant qu'il arrive en studio. Et moi, je m'étais mis aussi à la compo sur le morceau. Donc, on s'est mis avec Vladimir Cauchemar, on s'est mis à deux dessus. Et ce qui est assez drôle pour l'anecdote, c'est quand il est venu au studio, j'étais très intimidé par sa présence. Ouais. Et j'ai même pas dit merci d'être là et tout. J'ai fait, c'est ça le morceau qu'on a fait ensemble et tout, tout de suite. Et lui, en fait, il est assez... Il est pas américain, quoi. Il est anglais, ça se ressent. Il est british, quoi. Donc,
il est assez timide, hein.
Peut-être que c'est peut-être de la timidité. Mais en tout cas, moi, j'ai senti de la nonchalance un peu. Et le flegme à l'anglaise. Et du coup, il a fait le truc, disons qu'on n'a pas passé 2 heures de studio à péter de rire ensemble, mais on était concentrés sur le truc qu'on devait faire. Quoi.
Aussi.
Du coup, il a tout écouté, puis après, il s'est mis tout de suite.
Alors, je disais, je vous ai vu à poil avec vos états d'âme, votre milieu, votre relation aux autres, etc. Il y a aussi toutes vos valeurs, vos engagements, votre thème de prédilection. Et là, il y a un thème qui, en Belgique, n'apparaît pas spontanément, qui apparaît plus spontanément chez les rappeurs en France, qui est le colonialisme, le post-colonialisme. Et dans votre album, il y a un très très beau morceau qui s'appelle « La Belgique-Afrique ». Et c'est vrai qu'en tant que Belge, c'est un sujet que nous, on n'aborde jamais spontanément. Puis là, vous y allez. Qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle et comment vous vous êtes dit « je vais aborder le Congo belge »
L'événement qui m'a qui m'a rappelé que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là, c'est l'événement de cet été au festival de Pukkelpop en Belgique. Donc il y a des jeunes festivaliers belges qui se sont amusés à je crois qu'ils ont même été jusqu'à violenter des festivaliers en fait, et déjà juste avec les mots c'était déjà assez violent. Ils ont entonné des chants racistes colonialistes, quoi, en fait,
pendant le concert de Kendrick Lamar.
Exactement, ouais. Un truc qui disait main coupée, le Congo est à nous, un truc comme ça, donc en gros qui fait référence aux exactions belges pendant la période de colonisation. Mm-hmm. Et moi, en tant que fils de personne qui a travaillé au Congo, je vais pas dire fils de colon, parce que mon grand-père était absolument pas un colon.
Il était administrateur, il travaillait dans
exactement.
L'administration. Quoi,
donc. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et donc, en tant que petit-fils de grand-père qui a travaillé au Congo, je suis mal à l'aise de cette situation, parce qu'on en parle jamais, on n'en a jamais parlé à l'école.
Il n'y a jamais eu d'excuses de la Belgique.
D'ailleurs, quand le morceau a été fait, et une semaine ou deux après qu'il était vraiment finalisé au niveau de l'enregistrement, je commençais à me poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce morceau? Est-ce que vraiment j'ai envie d'assumer ce truc? On va me tomber dessus. Et cette semaine-là, il y a un rapport de l'ONU qui a été déposé en Belgique, qui a été proposé par des experts historiens en disant qu'il fallait qu'on revienne sur le passé de la Belgique et qu'elle devait s'excuser peut-être, ou en tout cas revoir sa position par rapport au passé, quoi. Mmh. Donc ça m'a paru assez légitime au final.
Et voilà, pour un autre thème abordé dans Chocolat, votre album qu'on aime beaucoup, et tout à l'heure Mélanie Boer va nous en parler. C'est Roméo Elvis avec nous jusqu'à 18h. Fire burn, fire burn. Children want to have enough fun. Fire burn, fire burn.
Fire burn, fire burn.
Blood around, blood around.
Blood around, yeah.
The children want to play in the sun. The children want to play in the sun. Put it down, put it down.
Put it down, put it down.
Put it down, put it down.
Put it down.
Why you wanna shoot your brother down? Why you wanna shoot your brother down?
Fire could burn your soul and also your lover. Cause the fire could burn your soul and also your lover.
Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to have no fun. The children want to have no fun. Fire burn, fire burn.
Fire burn.
Fireburn, Adelante, le choix musical de Djoubaka à 17h21 sur France Inter. Notre invité, c'est Roméo Elvis. Son nouvel album s'appelle Chocolat. Samedi, il joue à Bruxelles. Bruxelles, forêt nationale. Mais allez-y, si vous n'avez pas vos places, vous êtes dingue ou quoi? Le nouvel album de Roméo Elvis est fabuleux. C'est qui va nous en parler tout à l'heure?
C'est Mélanie Boer. Ah ouais. Et avec elle, autour de la table, il y a Juliette Arnault et Guillaume Meurice, parce qu'il est voilà. un peu obligé. Voilà.
Bien sûr. Roméo Elvis, vous connaissez l'émission, c'est le moment de l'information.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose.
Le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence avec les titres.
On parlera des suites de l'incendie à Notre-Dame.
Quoi ? Il y a eu un incendie à Notre-Dame.
Non, vous jouez mal, là, c'est pas possible.
Excusez-moi.
Alors, on parlera aussi de la déclaration d'un orateur de la France insoumise, Thomas Guénolé, qui décrit Jean-Luc Mélenchon comme autoritaire.
Quoi ? Jean-Luc Mélenchon est autoritaire ?
Non, ça le fait toujours pas. On n'y croit pas, Guillaume.
Non, pardon.
Il y aura également des brèves.
Quoi ? Il y a des brèves dans ce journal ?
Bon.
Excusez-moi. Je vais reprendre du cours de théâtre.
Allez.
Alors on commence avec Notre-Dame, bien évidemment. Patrick Fiori, le chanteur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, a déclaré « Nous préparons un événement à la hauteur ». Donc la reconstruction s'annonce difficile.
Bah oui, c'est quand même une cathédrale.
Non,
hein.
non.
Quoi, vous parliez de la reconstruction de la cathédrale, quoi.
Non, de la carrière de Patrick Fiori.
Ah oui, alors là, effectivement, ça s'annonce difficile.
C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors à Notre-Dame, les hommages se poursuivent. Hein, au pied de l'édifice, des gens viennent allumer des bougies.
Et allumer des bougies à Notre-Dame, ça c'est pas très malin.
Pas très malin, c'est comme mettre des verres d'eau en hommage au petit Grégory. C'est pas
malin.
Pas malin.
Pas malin toujours. Édouard Philippe a affirmé qu'il voulait que l'on reconstruise une flèche adaptée aux enjeux de notre époque.
Voilà, donc une flèche qui indiquera le pôle emploi le plus proche.
Un malheur n'arrivant jamais seul, Ariel Dombal a tenu à réagir. Elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux.
À toi, Notre-Dame, cœur battant de France.
Sainte Marie Juana, priez pour elle.
Oui. Coïncidence ou pas, un incendie a également ravagé une cave à Bordeaux.
Oui, Gérard Depardieu a déjà envoyé un chèque de 100 millions d'euros.
Politique à présent, l'invité du 7-9 de France Inter. Ce matin, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, parlait de discrimination de couple ce matin.
Donc sur la question des discriminations, effectivement, on se rend compte que à l'égard des couples homoparentaux, mais aussi monoparentaux.
Eh oui, les couples monoparentaux, hein, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Hein, voilà, voilà, c'est l'occasion de leur faire un petit hommage. Et même quasiment aux célibataires et à leurs conjoints. Hein.
Au taquet, Adrien.
Au taquet. À propos de protection de l'enfance, une nouvelle campagne contre la fessée vient d'être annoncée.
Oui, elle s'achèvera par le résultat de Raphaël Glucksmann aux élections européennes.
C'est logique. Européenne, encore avec une belle déclaration de Nathalie Loiseau, tête de liste LREM, ce matin sur Radio Classique.
Je ne sais pas ce que c'est que le charisme. Je ne suis pas Madonna, c'est sûr. Je ne vais pas chanter sur scène. Je vais pas faire tourner des ballons sur mon nez.
Et c'est bien dommage. Par contre, si vous voulez apprendre à jouer du pipeau, fais comme l'oiseau.
Voilà, Nathalie Loiseau s'est ratée pour le featuring avec Roméo Elvis. C'est dommage. Politique encore, rien ne va plus à la France Insoumise. Thomas Guénolé dénonce une organisation autoritaire. La France Insoumise lui répond en l'accusant de harcèlement sexuel sur une de ses membres.
Bonne ambiance. Hein. Jean-Luc Mélenchon aurait déclaré « La polémique, c'est moi !»
On termine avec une brève.
Oui, une brève politique encore. Louis Sarkozy, hein, donc le fils de Nicolas, lance une collection de chaussures, c'est véridique, des mocassins en hommage à des philosophes.
Ouais, je crois qu'il a passé beaucoup trop de temps avec Ariel Dombal.
Ouais, mieux que le changement d'heure, le changement de dealer.
Merci Guillaume.
Je vous en prie, à votre service madame.
17h25 à Lille, où Roméo Elvis joue le 10 novembre. Car le 13 novembre, il sera à Lyon et le 14 novembre, il sera à Nancy. Il est en tournée et il est avec nous dans ce studio, dans Par Jupiter. Roméo Elvis, on va aborder ce premier sujet avec vous. Pour porter de belles valeurs, comme la mixité, la cohésion sociale et démocratique, rien de tel que d'enfiler un uniforme bleu marine et de s'engager dans le service national universel. 2000 volontaires seront mobilisés cette année. Les 13 premiers jeunes à participer au SNU ont 16 ans. Ils ont enfilé l'uniforme depuis dimanche, et déjà on note une belle et grande cohésion.
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous
si la
rencontre
était là, Notre-Dame serait toujours là.
C'est des belles chansons aussi. Hein.
André Dassary, chanteur basque, chanteur d'opérette. Roméo Elvis, s'attendait pas à entendre Maréchal, nous voilà aujourd'hui. Nous non plus, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc le ce qu'on appelle le SNU en France, le Service National Universel. C'est une idée du gouvernement pour plus de mixité entre les jeunes, etc. Alors déjà, bon, vous qui êtes belge, Roméo Elvis, est-ce que en Belgique, vous avez dû passer par... un recrutement, il y a des choses comme ça ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Pas du tout, hein.
On parle bien d'un service militaire là.
Un peu version soft, mais c'est-à-dire qu'il y a un uniforme bleu marine. Je vous montre une photo. Alors dans Paris Match, ils ont un.
Ah ouais.
Voilà, il y a un pantalon bleu marine, un blouson bleu marine, un petit polo blanc, un logo. Donc c'est vraiment l'uniforme. Oui, ça fait peur. Hein.
Ouais.
D'accord. Mais est-ce que ils ont 16 ans? Est-ce que vous comprenez un peu ce que cherchent ces jeunes? Sans doute plein d'entre eux vous écoutent et vous écoutent parler. de tout ce que vous parlez dans vos chansons, y compris de chocolat, qui est aussi un autre sens. Et en même temps, ils s'engagent. Vous essayez de comprendre.
Ouais, je vois. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes-là?
Oui, c'est ça.
L'amour, peut-être, un truc comme ça, mais je sais, est-ce que eux, ils savent vraiment ce qu'ils font là, vraiment, ou est-ce qu'ils ont été amenés là par leurs parents, ou est-ce que...
Non, c'est sur la base du volontariat, et c'est pas mal de jeunes, quand même, qui sont soit en décrochage scolaire, soit qui sont pas à l'aise avec le système actuel.
Ouais.
Moi, je serais un peu moins sévère que mes confrères, consoeurs, mais il me semble, je sais pas ce que vous en pensez, que c'est...
Ouais.
Pour les jeunes qui, pour le coup, n'ont pas tellement de projets, c'est déjà un an de passé, peut-être avec des gens qu'ils n'auraient jamais croisés par ailleurs. Ah ouais, il y a un mélange social quand même.
En fait, visiblement, la différence, c'est qu'ils sont volontaires, ces
gens-là. Voilà, c'est pas forcément un an. Il y a une période de cohésion de 15 jours, une mission d'intérêt général de 15 jours. C'est pas forcément une longue période.
Ouais.
Il faut,
Moi, je vois pas le problème à partir du moment où les gens ils choisissent d'y aller. Quoi. Moi, quand on était à Saint-Luc, donc l'école où j'étais en Belgique, il y avait plein de Français. Et eux, ils avaient déjà à l'époque une journée où ils étaient obligés d'être.
Préparation
et ça les emmerdait tous, quoi, je me rappelle, vraiment, parce qu'ils avaient vraiment rien à faire là-bas.
Ouais, mais s'il y a la guerre, on est prêt.
Ouais,
là, qui débarque.
C'est vrai. Mais Roméo Elvis, est-ce que la France, elle a remarqué qu'il y avait un déficit de mixité et de mélange entre classes sociales, etc. Est-ce qu'en Belgique, ça se fait un peu plus naturellement?
La mixité?
Ouais.
Bah déjà on partage le pays avec des gens qui parlent pas la même langue que nous, quoi. Donc on est forcé, hein.
Ouais.
Et toute la politique est divisée et tout est divisé, quoi. Donc est mélangé, en fait. Ouais. Ça dépend de comment on utilise le mot, quoi.
Donc on se mélange peut-être un peu plus facilement. Et d'ailleurs vous chantez un peu en flamand.
Un tout petit peu, ouais.
Un petit peu. Comme vous êtes bruxellois, vous parlez à la fois français, flamand.
Ouais, j'ai plus de facilité, en tout cas.
Voilà. Et puis, vous défendez presque de venir d'un milieu un peu plus favorisé. Vous venez d'un milieu d'artistes où les parents ont réussi, etc. Et puis, vous faites du rap, vous êtes jeune, blanc.
Ouais, c'est ça. C'est tout des...
faire des efforts.
Non, mais en fait, ça dépend des personnes. Je crois qu'il y en a, je pourrais en avoir rien à foutre, en fait, et faire mon chemin sans avoir à vouloir me justifier, à me dire, ah non, je suis pas légitime d'être là. Mais je me pose 150 000 questions, et vu que je suis fils d'artiste et que je suis blanc et que je fais du rap, un milieu qui de base, je veux dire, historiquement, les rappeurs c'était pas des blancs fils d'artistes, pour faire court. Donc en gros, j'ai l'impression que je dois me justifier sur ah ouais, en fait, je viens de là et tout, attention, je veux pas prendre votre place et tout.
Mais faudrait faire un peu de tôle, non?
C'est du temps perdu.
Non, mais c'est intéressant, en fait, parce qu'il y a pas beaucoup, pour le coup, de rappeurs, c'est assez nouveau quand même, qui viennent d'un milieu bourgeois avec des parents artistes. C'est compliqué d'assumer ça, en effet. Ouais, vous avez dû vous prendre à la figure vous étiez pas légitime, entre guillemets, en fait.
Moi, je disais bourgeois au début, mes parents me disaient non, dis pas ça, on n'est pas bourgeois, tu viens d'un milieu aisé, attention, parce qu'en plus, mon père, moi, il vient vraiment d'un milieu populaire, il m'a fait grandir comme lui a grandi, quoi. Donc vraiment, j'ai pas grandi avec la cuillère d'argent dans le cul et tout, mais d'origine, en plus, quand on va taper Wikipédia, je suis né à Uccle, quoi. Uccle, c'est le 16e. Donc ça me sert pas spécialement.
C'est des gens qui parlent un peu comme ça, qui sont un petit peu, c'est un petit peu embourgeoisé, quoi.
Exactement. Quoi.
Parlez un peu comme ça quand vous les imitez.
Oh, je suis très bien, mais j'ai travaillé dans un Carrefour, donc à Uccle, donc j'avais beaucoup d'Uccle, quoi.
Vos parents que j'embrasse, voilà, votre maman Laurence Bibot est une humoriste qui moi m'a beaucoup inspirée et je lui rends hommage aujourd'hui, ainsi que votre papa chanteur Marca bien sûr. Roméo Elvis est avec nous, eh bien parlons-en avec Mélanie Boer.
Oui, alors bon, tant pis, je le dis, je suis vieille, hein. Je suis la daronne d'une enfant adulte, une femme qui trébuche sur les mots des jeunes et pas que sur leur vocabulaire, leurs angoisses aussi. Oui, mais je suis une yeuve branchée. C'est un peu comme un vieux beau Guillaume Meurice, mais sans la bagnole. Donc, j'essaye de comprendre ce nouveau monde où France Inter est numéro 1, où le hip-hop devient la variété, mais c'est clair, il me claque dans la tête, elle a un élastique trop tendu entre les doigts, une pichenette dans mes repères. Ce nouveau monde ébranle mes certitudes qui datent, il faut le dire, du siècle dernier.
Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en main. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh.
Chocolat, hein, c'est donc la beuh, mais c'est aussi le chocolat belge, il faut le dire. Bah oui, la première chose que je me dis, comme une mamie, hein, quand j'écoute ce titre angulaire du nouvel album de Roméo Elvis, c'est « Oh bah de mon temps !» Aussi, on disait ça dans le rap. On disait que le cannabis, eh bah ça rendait pas forcément heureux.
Je fume plus de cheat, j'ai la conversation.
Non mais c'est vrai, parce que moi,
je suis tout seul dans mon coin.
Je
laisse un peu parce que j'adore. Alors je me console en me disant que oui, bon, bah, j'ai de l'expérience. Hein. Cette chanson de Stupéflip, par exemple, elle explique bien le chemin qu'a pris le rap d'aujourd'hui, de mon temps. Un rappeur qui allait chercher Jacno, le précurseur de la French Touch, la scène électronique française, pour faire du rap, c'était révolutionnaire. On n'imaginait pas, dans les années 90, que le rap sortirait de ses bases funk pour aller avaler toutes les musiques. On criait même au blasphème quand il se mélangeait au sacro-saint rock. Bon, il y avait bien Africa Bambaataa, hein, qui avait samplé Kraftwerk dans les années 80, mais on se disait que c'était un phénomène isolé, que ça marcherait jamais, ce genre de nuance de gris. Et puis, bam, 2010 est arrivé avec la trap musique et puis les Canadiens, là, genre Drake. Alors là, on s'est tous pris un gros coup dans nos préjugés. Les jeunes avaient régurgité la musique électronique, digéré le jazz et les rappeurs se lançaient à vocaliser leur mélancolie dans des égotripes de plus en plus sensibles et chantés. On était tous paumés. Nous, les vieux fans d'IAM, on n'a plus rien compris. Interlude. Ça, c'est l'interlude de Chocolat de Roméo Elvis. Oui, parce que ces petits cons, en plus d'être jeunes et de faire du rap complètement différent du nôtre, ils se permettent d'être d'excellents musiciens. Mais où va le monde, franchement? Et puis, ils font 2 mètres, ils se trouvent vieux alors qu'ils n'ont même pas encore 30 ans. Ils nous font chialer quand ils touchent la mort avec leurs grands yeux innocents. Et pire encore, ils ont le courage de dire ce qu'on aurait dû gueuler bien fort, nous, quand nos parents, ils écoutaient Sardou et Le Bon Temps des Colonies, quoi.
D'être belge quand je vois des jeunes entonner des chants racistes pendant un festival. Quand je vois l'accueil réservé aux migrants et quand je vois le discours mal caché de la NVA. Nos racines génocidaires devraient nous servir de rappel. On est qui pour oser vouloir fermer la porte? Ouais, c'est la merde, je suis d'accord, et alors? C'est comme ça qu'on finit par voter pour la gueule. Viens d'être belge.
Bam, dans ta face, la génération X qui avait tout bien rangé la musique dans ses cases, hein, comme dans un jeu d'échecs, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Je suis d'ailleurs pas étonnée de trouver Damon Albarn ou M sur le nouvel album de Roméo Elvis, parce que ce sont des précurseurs, des briseurs de frontières, des adultes qui s'accrochent à la pureté lucide de l'enfance, comme Philippe Catherine, dont vous êtes fan et qui fut votre sage-femme. Ce sont donc des hommes que l'on peut qualifier d'artistes parce qu'ils sont comme vous. Ils préfèrent les questions aux réponses. On ne peut pas les ranger, les analyser sans se mettre le doigt dans l'œil. Leur musique, elle touche directement au cœur.
Tabac pour canaliser, y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La photo réseau, même si les hommes étaient déjà racistes, on voit le mal par la racine. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah. Pas assez de place dans le cœur des hommes, pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah.
Pas assez de place dans le cœur des hommes.
Le monde entier sur les réseaux. Des millions de cons par milliers. Ils sont tous sûrs d'avoir raison. Je leur pisse dessus dans mes morceaux. C'est plus facile pour humilier. Le prix de la liberté, c'est la parole des imbéciles. J'ai plus tellement d'estime pour toute cette armée d'illettrés. Maintenant que je suis sur Twitter, je comprends où j'ai mis les pieds. Maintenant que je suis sur Twitter, je suis devenu plus indécis.
Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste.
B200 tabac pour canaliser. Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La photo réseau, même si les hommes étaient déjà racistes, on voit le mal par la racine. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah.
Pas assez de place dans le cœur des hommes,
pas assez de place dans le cœur des hommes, yeah.
Pas assez de place dans le cœur des hommes.
C'est
si facile de s'en mêler, c'est peu malin. S'y trouve rien et très trompe peut-être de s'en mêler. Y'a un malaise, on libère toutes nos idées comme des gamins. Ça fait 3 likes. Le pire c'est qu'on est souvent sur des toilettes. Le prix de la liberté, c'est entendre la vie des racistes. Y'a aucune thérapie, il faudrait qu'on les déracine. Maintenant que je suis sur Twitter, je comprends le taf de l'extrême droite. Ils s'en lèchent les doigts, ils prennent des places et même des voix.
Alors que j'ai mes amis qui sont justement arabes.
B200 tabac pour canaliser. Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser. La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes. On voit le mal par la ration. Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes. Pas assez de place dans le cœur des hommes. Pas assez de place dans le cœur des hommes.
Cœur des hommes, Roméo
Elvis. Chocolat, ouais. Nouvel album sorti le 12 avril.
Merci Mélanie Bauer. Roméo Elvis est en tournée dans toute la France. Et samedi, il est à Bruxelles, à Forêt Nationale. S'il y a encore quelques places, vous nous écoutez en Belgique, ne ratez pas ça. Roméo Elvis avec nous jusqu'à 18h. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
C'est moi. Et bien Notre-Dame toujours, et des dons de milliardaires qui affluent de partout. C'est une gigantesque quête, hein. On peut même parler de concours de quête. Qui a la plus grosse quête, hein. Je crois qu'on dit ça en Belgique. Bref, les milliardaires sont chauds comme Barbarin au Club Mickey. Ils lâchent de la caillasse, voilà eux qui d'habitude sont en PLS devant les impôts. Eux qui sont normalement aussi rapia que Clara Dupont-Monod, hein, la pince, hein, comme on l'appelle chez nous, le porte-monnaie en peau de hérisson. Et ben là, ils se lâchent complètement. Et c'est tout le peuple de France qui est en émoi. Il y a des polémiques sur leur sincérité. Est-ce que c'est un coup de com'? Alors moi, je suis allé interroger les gens ce matin dans un ghetto de riches, hein, le 7e. Donc c'est notre hucle à nous, hein, voilà, c'est couille en or et au vert en platine. On y va tout de suite.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une certaine honte en France à avoir réussi, il y a une certaine honte à gagner de l'argent. On pense qu'on gagne de l'argent uniquement en truant dans le fisc ou en exploitant le petit peuple, ce qui est absolument faux.
Est-ce que quand même Bernard Arnault, il truande pas un peu le fisc?
Non mais il ne s'agit pas de truander le fisc, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale.
Ah oui, pardon, j'ai pas tous les termes techniques. Enfin, c'est légal, quoi. Hein. Est-ce que c'est moral? Ça, c'est autre chose. Hein, c'est comme les ventes d'organes ou les pantacours. C'est vraiment chacun son truc. Mais j'avais quand même quelques doutes, alors j'ai continué avec ce même monsieur.
Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie, justement, à optimiser fiscalement et après à donner de l'argent?
Ben non, au contraire. C'est bien, je profite quelque part de l'optimisation fiscale, donc je donne.
Ouais, c'est logique. C'est vrai que c'est un réflexe que n'a pas le pauvre. Hein, le SDF n'optimise pas fiscalement. Qu'est-ce qu'il fait quand il a 3 euros, le SDF? Il va s'acheter un sandwich. Voilà, ben, c'est complètement con. Hein, le riche, quand il a 3 euros, il le place. Demain, il en a 6. C'est un autre état d'esprit, quand même. Je veux dire. Non, mais il évite le surendettement et le cholestérol. Voilà, c'est quand même autre chose. C'est pour ça qu'on a de belles réussites en France, comme la société Total, qui a beaucoup donné pour Notre-Dame, une société complètement clean.
À ma connaissance, il n'y a pas d'évasion fiscale de Total ou de...
Est-ce qu'on est bien sûr que Total paye tous ses impôts en France?
Je suppose.
Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que le fisc, il vérifie même pas. Hein. Ils se disent, bah, on leur a envoyé un mail. Normalement, voilà, pour la décla en ligne, ça doit rouler. Hein, c'est une question de confiance aussi. J'en parlais avec Patrick Balkany. Il me disait, les impôts, c'est comme le sida, c'est dans la tête. Je suis bien d'accord avec ça. Bien d'accord. Hein, on s'en fout de payer pour les services publics. Nous, ce qu'on veut, c'est Notre-Dame.
Pas comparer Notre-Dame à une maternité, à un hôpital, à un commissariat de police.
Mais pourtant, Bernard Arnault, il met jamais 100 millions dans une maternité.
Bon, de toute façon, si vous voulez, ces grandes fortunes sont haïes par les Français. Les Français n'aiment pas les riches. Les Français n'aiment pas les gens qui réussissent. Les Français n'aiment pas les riches. Donc, si vous voulez, laissons faire. La jalousie fait qu'on n'aime pas la réussite.
C'est de la jalousie pour vous.
Hein? Bah, les gilets jaunes, c'est de la jalousie. Hein? C'est je veux gagner plus d'argent, mais le voisin, non.
Est-ce que c'est pas aussi un peu d'injustice fiscale?
Un peu plus, si vous voulez. La fortune vient des entreprises.
Ça vient de l'entreprise, bien sûr. Voilà, moi, quand je vois les salariés, ça me dégoûte. C'est des gens qui prennent de l'argent aux entreprises. Il y a un super article là-dessus dans Esclavagiste Magazine. Je vous le conseille. En plus, c'est un super magazine. C'est vrai qu'il y a un poster grandeur nature de Jeff Bezos. C'est vraiment chouette. Enfin, tout ça pour dire qu'en France, on n'a pas à se plaindre.
Je trouve que la France est un des pays où la redistribution est la meilleure. C'est hallucinant que les gens râlent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ou...
Il y a des gens pauvres.
S'il y a des gens pauvres, c'est que la redistribution ne marche pas
non,
top top.
J'ai dit la meilleure qui existe au monde. Ah. C'est relatif.
C'est vrai, elle a raison, Madame Einstein, hein, c'est relatif. On a les pauvres les plus riches du monde, il faut se le dire. On a des gens qui meurent de froid, d'accord, mais dans des quartiers magnifiques. Et franchement, je vous pose la question, vous préférez être riche à Roubaix ou crever dans le jardin des Tuileries? Honnêtement, un peu de panache, sans déconner, mais bien sûr. C'est comme les réfugiés, ils se noient, d'accord, mais en Méditerranée. C'est magnifique, dans de l'eau à 25 degrés, même si cette dame n'est pas contre les aider.
Mais il y a de l'argent pour sauver les réfugiés.
Est-ce que Bernard Arnault, il a
Bernard
mis...
Bernard Arnault donne énormément pour les réfugiés, faut pas croire.
Ah bon?
Mais oui, comme Vuitton donne beaucoup, etc.
Ah oui, bah alors il communique pas dessus. Ah, mais c'est des sommes incroyables à mon avis. Le jacuzzi d'ailleurs sur l'Aquarius, c'est un don de LVMH, je me suis renseigné. Le collagène qui va pas dans les mannequins L'Oréal, il est utilisé pour colmater les zodiacs. Voilà, je me suis renseigné là-dessus. Et puis il faut aussi respecter nos traditions, nous sommes catholiques, bordel.
Je suis catholique de naissance, j'ai fait toute la procédure réglementaire, je me suis mariée à l'église.
Il y a des gens qui disent qu'on ferait mieux de donner aux migrants, par exemple.
Oui, non, ça certainement pas.
Non ?
Je trouve qu'on ne peut pas accepter de recevoir la misère, totalement la misère du monde.
Alors est-ce que ça c'est compatible avec le message de Jésus-Christ ?
Sans doute pas, non.
Non, ouais, non, c'est le bémol, je crois que le gars Jésus, il va bien gueuler quand il va voir ça. Comme l'abbé Pierre hein, qui disait que la beauté d'une ville n'est ni dans ses musées ni dans ses cathédrales, mais dans le fait de ne pas avoir de taudis, de ne pas avoir de sans-logis. Peut-être qu'un toit pour Notre-Dame c'est bien, mais peut-être qu'un toit pour tout le monde c'est pas mal non plus.
Merci Guillaume Meurice. Un jeudi saint quand même, vous auriez
pardon,
pu éviter ce genre de sujet.
Ah oui, J'ai parlé du message de Jésus-Christ, c'est quand même pas
17h43 sur France Inter. Merci Guillaume. Roméo Elvis est avec nous. Son nouvel album s'appelle Chocolat et il est en tournée dans toute la France. Clara Dupont-Mono, on vous a laissé le soin de choisir le deuxième sujet.
Oui, car selon un sondage de l'OFDT, la France se divise en deux, quasiment à part égale. Une moitié est hostile à la légalisation du cannabis et l'autre est pour. Et cette moitié pour est en nette progression par rapport à 2013. Ah. Et d'ailleurs, pour 65% des Français, le cannabis serait moins dangereux pour la santé que l'alcool ou le tabac. Cerise sur le pétard, 9 Français sur 10 se disent favorables à la consommation de cannabis thérapeutique, prescrite donc par les médecins. Pour résumer, bientôt, ne pas fumer va devenir un handicap.
D'un côté, si c'était pas à la mode de fumer, ils diraient quoi les rappeurs dans leur chanson ?
Je mange des gros bichotos, je mange des gros bichotos, du pain, des granolas, de ma crème à Minova, le biscuit dans mon cerveau, le biscuit dans mon cerveau, vanille au chocolat.
Pas d'extrait de l'album, hein,
je vous... Non, non, c'est pas du tout un extrait de l'album de Roméo Elvis, c'est un sketch de Mister V. Alors, Roméo Elvis, dans votre chanson Chocolat, donc de l'album éponyme, vous dites qu'il ne faut pas commencer, vous dites que vous avez beaucoup fumé de cannabis et que c'était perdre du temps.
Ouais.
Voilà, pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'à un moment, dans l'album solo que j'ai sorti, où je suis très sincère sur tout ce que j'écris, il fallait que je revienne de façon sincère et honnête sur ma consommation. Et aujourd'hui, elle m'aide à vaincre mes problèmes d'acouphénie, donc mes vrais handicaps. Mm-hmm. Mais je pense qu'elle m'a freiné quand même pendant mon adolescence, parce que c'est quelque chose de, quand on en consomme beaucoup, qui peut être vraiment contre-productif et chronophage. Et voilà, c'est tout simplement cet aspect-là que j'ai envie de présenter une fois dans l'album, pour assumer ce côté-là aussi. Je parle de la Belgique-Afrique, donc des aspects moins reluisants de la Belgique, alors que je fais toujours l'apologie de Bruxelles et compagnie, et de la culture bruxelloise. Et dans Chocolat, je me positionne aussi d'une manière un peu plus objective. Et vu que je m'adresse à un public qui est vraiment jeune, je lui dis, en fait, il ne faut pas commencer, quoi.
Et vous disiez tout à l'heure, durant l'interlude sur ce plateau, que vous aviez un regret et que votre père vous avait prévenu.
Ouais, par rapport à l'image que ça rejette.
C'est que vous avez posé, en fait, avec des pétards, etc. Ouais. Et qu'en fait, ça reste comme image.
Très fort. Ça reste très fort. Et c'est imprimé vraiment dans l'image que je rejette, en fait, que je dégage. Et c'est vrai que mon père m'en a beaucoup parlé à l'époque, en me disant, tu sais, tu parles quand même beaucoup de ça dans les textes. Tu le fais beaucoup en image et tout. Et ça me paraissait vraiment innocent. Et en fait, aujourd'hui, avec presque 1 million d'abonnés sur la page Instagram, n'importe quel poste n'est plus du tout innocent et je m'en suis rendu compte et aujourd'hui je le regrette un petit peu parce que j'ai plus spécialement envie de véhiculer ça en image et on me ramène toujours à ça quoi.
Aujourd'hui vous conseillez l'héroïne hein, on le rappelle.
Maintenant je suis passé à quelque chose de plus fort quoi.
Ouais. Et on rappelle qu'en Belgique c'est dépénalisé.
Ouais clairement il y a un truc vraiment différent par rapport à la France.
Non mais c'est vrai que si on fait la même chose avec l'alcool, tu prends un rocker et tu lui donnes une bière et tu montres comment il devient alcoolique en disant c'est trop bien d'être alcoolique, ça va être assez rapidement inaudible quoi.
C'est clair.
Et dans la chanson Normale, à un moment, vous parlez de la célébrité et vous dites, alors, c'est assez troublant ce que vous dites. Vous dites que votre passé vous manque, que le silence vous manque et vous dites, ils sont tous plongés dans la drogue. Je parle pas que de la coke, il y a aussi de l'alcool.
Ouais.
Donc, c'est pas confortable alors la célébrité.
Non, clairement. Non, ça l'est pas. Hein. Non, ben ça a plein de, il y a plein de facilités, mais enfin, je dirais, il y a plein de choses qui peuvent sembler plus faciles qu'avant, mais non, en règle générale, c'est pas confortable. Et quand je parle de l'alcool, après, je m'adresse plus à la société en général. Je trouve qu'il est très hypocrite avec la consommation de l'alcool. Et toute mon adolescence, j'ai dû me cacher pour justement fumer des pétards et faire la teuf, là où en fait boire des coups, ça a toujours été un truc hyper presque institutionnalisé, quoi, un truc vraiment validé. En Belgique, c'est la bière à fond. Mmh. Et voilà, et je trouve que c'est hyper hypocrite en fait, parce que ça a mis des amis à moi dans des états bien plus scandaleux qu'avec le cannabis, quoi.
Mmh. Roméo Elvis avec nous. Et avant de poursuivre, vous le savez, France Inter est devenue la radio la plus écoutée de France.
Ouais.
Et détrône RTL. C'est dingo. Mais c'est dingo. Voilà, vous inaugurez une nouvelle ère, Roméo Elvis, aujourd'hui.
Vous savez, alors, où vous êtes là quand même.
Je vous annonce que nous avons donc récupéré, comme on a détrôné RTL, on a récupéré la valise, la fameuse valise.
La valise.
Sur France Inter.
Alors, nous allons appeler une auditrice en Loire-Atlantique.
Allô ?
Bonjour Marie-Ange, est-ce que vous savez qui vous appelle ?
Oui, j'étais en train de vous écouter, j'adore Eddy de Préto.
Oui, alors concentrez-vous, hein, Marie-Ange. Alors, vous connaissez le montant de la valise France Inter ?
Oui, attendez, j'étais sur ma trottinette électrique, alors je le garde.
Ouais, allez-y, ouais. Hmm.
Alors, le montant de la valise, mm-hmm, dedans, il y a l'album de Clara Luciani,
ouais,
412 bandes dessinées de Johann Sfar sorties ce mois-ci,
ouais,
deux places pour le dernier film du réalisateur géorgien Otar Leseni.
Ah, vous êtes presque, Marie-Ange, parce qu'on a ajouté quelque chose ce matin dans la matinale.
Ah oui, la carte de presse de Bernard Guetta.
C'est gagné, Marie-Ange, vous remportez le montant de la valise France Inter.
Ah merci, je suis trop heureuse, je suis fan d'Otar Leseni.
Oui, merci, bonne soirée, Marie-Ange.
La valise.
France Inter.
C'est gratuit, c'est
17h49 sur France Inter. Roméo Elvis avec nous et à côté de vous le conseil littérature de Juliette Arnoux.
Alors, parce que c'est le sujet du moment et que moi l'actualité c'est mon chien, ma bataille. Oui, c'est une adaptation libre de Balavoine, j'ai pas d'enfant et j'avais un chien. Donc, puisque l'actualité c'est mon chien, ma bataille, je vous propose un livre qui traite de Notre-Dame des Landes. Oui, je sais, Charline, j'aurais dû me pencher sur Notre-Dame de Paris, invoquer Victor Hugo, évoquer la forêt charpente qui faisait sa gloire presque millénaire, participer, somme toute, humblement, à ma manière, à la reconstruction de la cathédrale. C'est notre histoire et elle brûle. Humblement, bien sûr, je le rappelle, je m'appelle Arnaud avec un D, Bernard n'est pas mon papa ou mon mari, mais voilà, je vous propose une autre Notre-Dame, une autre forêt, une autre destruction, reconstruction, bref, un monde qui se recompose, d'où le titre, la recomposition des mondes. Partons du principe qu'en gros, vous tous qui m'écoutez, pensez comme moi à propos de Notre-Dame des Landes, vous n'êtes qu'une boulette de préjugés, vous pensez à propos de à l'endroit de la ZAD, cheveux sales, Sarouel, Djembé, la cour des miracles, coucou Victor. Sauf que si c'est Alessandro Pignocchi qui lance l'invitation au voyage, moi j'y vais. Je vous avais déjà causé lui, c'est un ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, c'est un auteur et dessinateur de romans graphiques qui s'est beaucoup baladé notamment en Amazonie pour en revenir avec l'idée suivante, la nature n'existe pas. C'est une invention occidentale que d'opposer nature et culture. Alessandro y voit à la ZAD une chose qu'il a observée en Amazonie, pas un grand tout, comme disent les Occidentaux à vide de formule à la con. À la ZAD, comme en Amazonie, je le cite, on a affaire à une foule bigarrée d'êtres, humains, animaux, végétaux, au tempérament plus ou moins tempétueux, qui échangent, aiment et s'engueulent. Et comment a-t-il pu observer la ZAD, Alessandro Pignocchi ? C'est Guillaume qui va être content. Passion, histoire vraie, Pierre Belmar plus fort que Balzac. Alessandro y est allé.
Et voilà.
À la ZAD. Vivre, observer, questionner et puis combattre. Oui, il était là pendant l'opération d'expulsion avec gendarmes casqués et grenades et hélicoptères à 5h du matin. Croyez-moi, c'est physique. Surtout quand on n'a pas suivi de formation ad hoc et qu'on a un physique de lâche comme Guillaume. Alors, comme c'est le regard de Pignocchi, on passe d'un cadre plan large, effrayant façon Apocalypse Now, à un plan serré sur un rossignol. Ça fait 20 grammes, un rossignol, qui s'obstine à chanter parce que 20 grammes ou pas, grenade qui pète ou pas, un rossignol, quand c'est son territoire, ça chante. Et ce qu'il y observe, Pignocchi, c'est une tentative de recomposition d'un monde sur la base suivante, simple, basique et qui fait rêver. 1. Pas de rapport de domination. 2. pas de propriété privée. 3, on revoit à la hache le rapport d'opposition nature-culture. Parce que là-bas, à la ZAD, le combat continue. Oui, toujours, maintenant. Personne n'en parle, c'est complètement couillon. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, l'aéroport, finalement, c'était rien. C'est maintenant que ça compte. C'est l'existence ou non d'une ZAD qui change tout. Pour finir, un mot sur l'humour de l'auteur. Lors de l'expulsion, il y a eu une voix enregistrée qui a demandé aux résistants de riper leurs galoches. Et cette voix enregistrée est féminine. Quand les casques, sous les casques, ce sont des hommes. Alors Pignocchi imagine un type devant le foot qui bugle à sa femme. « Chantal, quand t'auras fini la vaisselle, tu m'enregistreras les sommations, je dois aller niquer la ZAD !» Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous toutes les références du livre.
Alors, il s'appelle Alessandro Pignocchi, le bouquin s'appelle La recomposition des mondes, il fait des aquarelles à tomber par terre, et la maison d'édition c'est Anthropocène Seuil.
Merci Juliette. Roméo Elvis avec nous jusqu'à 18h. Nous sommes en 2019, il nous reste quoi, entre 10 et 30 ans pour changer notre mode de production et de consommation et sauver la planète. Aujourd'hui, le sexe aussi doit être éco-responsable. On s'inquiète de ce qu'on met sur notre peau, on s'inquiète de ce qu'il y a dans notre assiette, faut s'inquiéter de ce qu'on met dans notre... Qu'est-ce que le sexe écolo? C'est le préservatif sans parabène, c'est aussi le vibromasseur à énergie solaire, c'est aussi ceci.
Mais il gratte ces draps, Denis. T'as encore pris ton petit déjoli?
Non.
Bah dis pas non, ça gratte. Il y a des miettes.
Ah non, c'est des draps en chambre. C'est bio, sans pesticides. Et en plus, pas besoin de les nettoyer. Le chambre s'auto-nettoie.
Comme le four.
Comme le four. Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article que nous avons trouvé sur slate.fr qui nous parle aussi de caoutchouc naturel pour les préservatifs issus de plantations durables et du commerce équitable. Roméo Elvis, je sais que l'environnement, c'est un de vos combats. Vous êtes venu avec votre gourde. Vous avez lancé le hashtag ma gourde à moi en Belgique notamment. Est-ce que l'écologie aujourd'hui, ça passe aussi par le sexe finalement?
Bah, je pense. Hein. Mm-hmm. Il faut s'attaquer à tous les domaines.
Ouais.
Clairement. Nous, avec ma copine, on éteint toutes les lumières maintenant, quoi. Avant, on faisait ça allumé, et maintenant, on enlève même
Pour des raisons d'écologie?
Ouais. On enlève vraiment tout le courant, quoi, de tout l'appartement.
Mais vous iriez jusqu'à utiliser des préservatifs en peau de mouton? C'est ce qui est commercialisé.
En peau de mouton?
Absolument.
On va peut-être attendre un petit peu que le progrès se fasse encore, quoi.
Il existe déjà le progrès, hein. J'avais pris l'exemple extrême, mais, c'est ça qui est commercialisé.
Pendant des siècles, c'est bien comme ça qu'ils étaient faits, les préservatifs. Alors, ça a jamais empêché les gens de...
Non, mais sauf qu'en plus, c'était un obstacle.
Voilà, mauvais exemple, d'accord, ok.
C'était un obstacle. C'est les Romains, en fait, qui ont utilisé et inventé ce préservatif en peau de mouton. Mais cela dit, ça protégeait des grossesses non désirées, mais pas des MST. Donc en plus, c'est efficacité.
C'est des MST de mouton, du coup?
Alors, je sais pas.
Bonne question.
Non, mais il existe déjà, c'est déjà vendu, des préservatifs, sans phtalates, sans parabènes, etc. Ouais. Y compris pour les vibromasseurs, etc. Et d'autres qui sont recyclables. Alors c'est amusant parce que le sextoy entièrement recyclable aux États-Unis, il y a 8 ans, il a pas du tout rencontré son public. Aujourd'hui, ça commence. Autre question, quand on s'inquiète d'écologie jusqu'au plus profond de notre intimité, est-ce que c'est le signe qu'on a vraiment intégré les réflexes? Est-ce que quand on pense jusque-là, c'est vraiment qu'on a fait un pas et qu'on peut se rassurer?
C'est-à-dire qu'on a pensé à tout.
Ouais, parce que bon, ce qu'il y a dans notre assiette, ça paraît logique. Éteindre les lumières, ça paraît logique, etc. Mais quand on pense jusqu'au préservatif, au vibromasseur, etc., est-ce que ça veut dire qu'on l'a vraiment intégré?
Bah, c'est quand même un peu à l'intérieur de nous, hein.
Oui.
Oui, ça arrive.
Mais je veux dire, est-ce que ça montre qu'on a vraiment intégré tous les réflexes écologiques?
Mais disons qu'il n'y a pas de raison de s'occuper de l'écologie ailleurs et de s'en foutre juste là, quoi.
Oui, c'est un peu la question qu'elle pose. Merci, Guillaume Meurice.
Bah, donc c'est la réponse que je pose aussi.
Peut-être qu'on peut.
Non, mais vous étiez posé la question, par exemple. Est-ce que le sexe écolo, est-ce que ça existe? C'est la première fois que vous en entendez parler.
Non, j'avoue que j'avais jamais pensé encore au sexe écolo, mais que j'ai vu un préservatif où ils avaient mis 100% recyclable ou un truc comme ça et ça m'a fait. Enfin, je pense pas que c'était recyclable parce que là, il y a un problème évidemment avec un préservatif.
Mais ne le réutilisez pas deux fois.
Viseray qui pourrait.
On ne parle pas des absents, Claire Edmond. 17h56 sur France Inter. Roméo Elvis est avec nous. On a envie de jouer avec vous si vous êtes d'accord. Roméo.
C'est l'heure du sketch de fin d'émission. Tous les jours, on propose à l'invité un sketch qu'il découvre. Et on vous a écrit un beau rôle, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, a lancé une collection de mocassins. Il va donc présenter ce nouveau projet à son père. Donc vous êtes Louis Sarkozy.
Okay.
Charline fera une excellente Carla Bruni et je serai quant à moi Nicolas Sarkozy. C'est parti. Alors Louis, comment vont les affaires?
Très bien papa, je me suis lancé dans le mocassin.
Ah, excellente idée, le mocassin à gland?
Pas vraiment mon concept, c'est plutôt le mocassin intello.
Un tel quoi?
Non. Qu'est-ce qu'elle a ta meuf encore?
Viens, fais des vocalises. C'est quoi cette histoire de mocassins, Tello?
Bah, par exemple, je vends les mocassins Freud.
Ah, c'est remarquable. Tu veux qu'on en parle?
On dirait que Carla est emballée là.
Oui, c'est une grande intellectuelle. T'as quoi d'autre en magasin?
Il y a le modèle Marie Curie aussi.
T'aurais pas plutôt une paire de Finkielkraut?
Taisez-vous, gna 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 gna, pauvre con.
Elle a dit quoi là?
Non, non, la limite Finkielkraut, juste.
Ok, d'accord, la nuance est fine. Bon, j'envisage de lancer le modèle Eindhoven aussi.
Ah non, nul, nul, c'est nul.
Carla, ça te dirait d'avoir ton ex à tes pieds?
Non, elle est contre. Non, 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 non. Et si tu crées plutôt une paire signée Nicolas?
Non, non, je peux pas. Je vends uniquement des mocassins Intello, j'ai dit.
Attends, ne me dis pas que tu vends le mocassin Glucksmann.
Elle a couché aussi avec Raphaël Glucksmann.
Ne sois pas plus insolent que ton père, veux-tu?
Tu fais bien de me le dire. J'allais te proposer le mocassin à talonnette. En tout cas, elle a l'air super enthousiaste.
Mais c'est quoi ton but avec ces mocassins?
Habiller Romeo Elvis, le rappeur le plus classe de sa génération.
Sérieusement?
Mais elle dit quoi tout à l'heure en
elle
fait?
Elle dit qu'elle adore l'idée et va en parler à son ami Jean-Paul Gaultier.
Bravo!
C'est pas fini.
Non mais si le mocassin n'a plus de glands, vous revanchez juste ces deux beaux glands à mocassin. Excusez-moi, j'ai foiré la fin, monsieur.
Ça a été dommage.
C'est, non, c'est difficile, ça demande beaucoup de coffres de faire carrière. J'avais plus de souffle. Romeo Elvis, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On recommande chaudement
première
votre album.
Radio de France. Hein,
ouais, qui s'appelle, votre album s'appelle Chocolat. Demain, vous êtes au Zénith de Paris, c'est complet. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le Thalys si vous pouvez. Vous allez samedi à Bruxelles s'il reste quelques places. Et puis ensuite, vous passez par Amiens, Luxembourg, Rennes. En novembre, il y a Lille, Lyon, Nancy, Genève, Nantes, Bordeaux, Toulouse. Et le 23 novembre à Montpellier. Vous verrez toutes les dates, bien sûr, sur le site, par exemple, de Romeo Elvis. Merci beaucoup, Romeo.
Merci à
vous.
C'était
un plaisir de vous recevoir. Merci à tous. Merci Mélanie Boer, Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono. Merci Guillaume Meurice. Et puis, bah, le mot de la fin, à Romeo Elvis sur la journée d'appel.
L'école où j'étais en Belgique, il y avait plein de Français. Et eux, ils avaient déjà à l'époque une journée de
préparation.
Faire une préparation et ça les emmerdait tous.
Ouais, mais s'il y a la guerre, on est prêts.
Ouais,
la